France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Peut-être en avez-vous assez, en tant que touriste à Paris, de visiter le musée du Louvre, Notre-Dame, la Tour Eiffel, Beaubourg et autres Sacré-Cœur. Eh bien, suivez l'exemple des « Décraqués » de Bertrand Jérôme, en juin 1996, qui prônait le tourisme minimal. Tourisme minimal à Paris, en l'occurrence un peu à l'ouest de Paris.
Le tourisme minimal est une forme de tourisme qui se situe à l'opposé de certaines pratiques touristiques, aller toujours plus loin, visiter dans le plus court espace de temps le plus grand espace de territoire possible. Nous voulons saluer ici le Latourex, laboratoire de tourisme expérimental fondé par Joël Henry, qui a exploré entre autres ce domaine. Signalons d'ailleurs qu'il vient d'éditer une encyclopédie du tourisme expérimental. On peut se la procurer au siège du Latourex et nulle part ailleurs. 3 rue de Bâle, à Strasbourg. Le tourisme minimal commence par la recherche d'un espace limité à 4 rues, par exemple, espace dans lequel on se fixera pour un week-end prolongé ou non, une semaine ou deux, 3 ou 4 si on le souhaite, un espace non signalé, dans aucun guide de vacances ou agence de voyage, dans lequel on vivra comme vivent tous les touristes. Chambre à l'hôtel, chambre chez l'habitant, visite des curiosités du lieu, dégustation de la gastronomie particulière au site, fréquentation des natifs du cru pour connaître l'histoire et les légendes locales, etc. Emmanuel Brouillard, vous avez fait cette expérience. Où nous emmenez-vous ?
Je vais vous emmener à Versailles.
C'est pas vrai.
Si.
C'est une ville touristique, tout le monde connaît. Écoutez, c'est vraiment...
On n'est pas forcé d'aller au château.
Plein de Japonais.
C'est grand.
Il y a des choses que vous connaissez, il y a des choses que vous connaissez moins à Versailles, oui. Je suis sûr. Donc,
on vous écoute.
Quand on part de Tokyo, c'est un exemple.
Oui.
Les Japonais qui nous écoutent, ils prendront le vol AB645 d'Air France, qui part tous les mardis soirs à 19h, heure locale, et qui arrive le mercredi matin à 3h à Roissy. Ils pourront dormir quelques heures dans l'aéroport, puis prendre la navette Air France jusqu'à la station Invalide, et enfin la ligne C du RER qui aboutit à la gare de Versailles-Rive-Gauche. Ils prendront garde de ne pas se laisser abuser par cette appellation, aucun fleuve ne coule à Versailles. C'est un piège, ça existe. Les visiteurs venant d'un autre pays que le Japon aboutiront de la même façon à la gare de Versailles-Rive-Gauche. Sortir à droite de la gare, remonter l'avenue du Général de Gaulle sur 200 mètres environ, jusqu'à l'avenue de Paris. Au fond, à gauche de celle-ci, on peut apercevoir le château, vieille bâtisse sans intérêt particulier. On prendra donc sur la droite, on traversera à hauteur du premier feu rencontré. On continuera tout droit en prenant la rue Georges Clémenceau jusqu'à la place Charot. Et on arrivera dans le pâté de maison qui sera le lieu de villégiature et de tourisme, et qui s'inscrit entre cette place, Charot, les deux rues montantes qui en partent et la partie médiane de la rue Montboron dans laquelle elles aboutissent. On logera, si on ne supporte pas l'altitude, à l'hôtel des voyageurs, place Charot, ou sinon à l'hôtel Printania, ancienne maison de passe entièrement réhabilitée en hôtel 2 étoiles, mais qui culmine à plus 24 mètres à l'angle de la rue d'Anjou et de la rue Montboron. Je propose pour la visite de ce quartier un circuit en 2 jours, qui est assez complet. Premier jour, partir de l'angle de la rue Montboron et de la rue Saint-Simon, à la hauteur du tabac Le Marlboro. Au 14, observez les beaux rideaux de gaz des fenêtres du premier étage qui représentent différents aspects de la vie des mollusques. C'est une curiosité. Le cordonnier du 13 est un brave homme qu'on trouve en général au Marlboro et qui est intéressable sur l'histoire de la semaine à travers les âges. Ne pas hésiter à l'aborder en lui payant une tournée vers 3h de l'après-midi. Au 13 bis, boutique Miniso vendant hamsters, lapins, serpents et autres animaux de compagnie. On peut lire dans la vitrine d'amusantes petites annonces telles que celle-ci. Jeune fille cherche chien à promener, 20 francs la promenade. Capacité à promener seul des chiens, y compris gros. contacter Catherine.
C'est un quartier animé.
C'est un quartier riche. Oui. Je l'ai choisi pour ça. Ensuite, on passe devant la vitrine d'un expert en objets d'art. On peut y admirer la statuette en bronze d'une cinquantaine de centimètres représentant un joueur de boules Second Empire en train de pointer. Statuette rarissime ayant appartenu, selon la légende, à Marie-Antoinette Enfant. Au rez-de-chaussée du 9, Calico, auto-publicitaire de l'entreprise générale de peinture Les Fils de Marcel Gaudin, SARL, en technicolor pastel avec effet de relief. Nous retrouverons Les Fils de Marcel Gaudin lors de la deuxième journée. Un déjeuner au Marlboro s'impose. Copieux sandwich aux rillettes. C'est un genre de pâté, les rillettes. On trouve des rillettes de Mans, des rillettes de Tours. Mais j'ai pas bien compris la différence entre les deux. Il paraît qu'il y a une différence. Arrosé d'une bière pression, on en a pour 25 francs seulement. Attention, cependant, la patronne sait identifier les fausses pièces de 10 francs. Pour les écouler, s'adresser de préférence à son mari, qui voit moins bien clair. Demandez à la patronne, elle s'exécute volontiers, de bien vouloir faire fonctionner à plusieurs reprises, d'abord à vide, puis rempli de bouteilles, l'étonnant monte-charge électrifié qui aboutit directement de la cave dans la salle devant le comptoir.
Ah oui, ça, c'est, je connais un bistrot comme ça. Pas c'est là, très amusant, mais ailleurs. Mais... Ah oui, oui,
c'est
un moment distrayant.
Soi,
oui, oui, oui.
Mais souvent, c'est derrière le comptoir, on ne le voit pas, parce que là, c'est devant le comptoir.
Absolument. Ah, mais je peux vous en montrer un. Il y en a un pas loin d'ici.
Tout près d'ici,
ah,
oui,
bien.
Absolument.
Ah,
oui,
je connais.
Oui, absolument.
Ah, mais nous connaissons nos bistrots, oui, mais vous croyez, oui.
Vaut-il celui-là qui comporte un arceau métallique constituant l'armature de l'appareil
pointu, mais une sorte d'ogive.
Style nouille, quand même.
Oui.
Modern style.
Ah bon. Et qui pousse le sol.
Qui pousse le sol.
Qui pousse les cartes.
Et qui l'ouvre.
Oui.
Un peu, enfin, c'est très beau. Si la patronne est de bonne humeur, elle vous proposera peut-être de monter vous-même dans l'appareil. Sensation unique. Pendant l'ascension du monte-charge, on peut glisser un œil vers la cave et la réserve de limonade, qui est quand même quelque chose à voir. À noter que Monsieur Gaston, l'ancien propriétaire du tabac, contrairement à une rumeur tenace dans le quartier, est toujours vivant. C'est ça. Beaucoup de gens parlaient de la mort de Monsieur Gaston, c'est faux. On le voit encore avec sa moustache passer devant son ancien tabac.
Ouais. C'est un rectificatif intéressant, oui. Continuez.
Du comptoir, on a une vue imprenable sur la plaque commémorative du 14 bis de la rue Montboron, dont l'intitulé avait été remarqué par les surréalistes pour son pouvoir d'évocation. Vous pourrez lire « Dans cette propriété est né le 4 mars 1822, Jules-Antoine Lissajou de l'Académie des sciences qui rendit visible le son ». Lissajou est en effet l'inventeur d'un procédé optique mettant en évidence les phénomènes vibratoires.
C'est fou. Hein. Il est
dans le Petit Larousse.
Mais je vous crois volontiers. Oui.
Mais oui. Tous les 4 mars, une fête commémore sa mémoire devant son immeuble de naissance. Les chœurs Lully, chorale locale dirigée par Bernard Lablaude, viennent donner un concert installé devant l'appareil de Lissajou, qui traduit oratorio, fugues et madrigaux en une œuvre graphique mise ensuite aux enchères. En face du Marlboro, entrée dans la boulangerie du 14. Très jolie et authentique boulangère, qui se tient en général derrière son comptoir, bizarrement, mais qui se laisse embrasser si on le lui demande.
Ah ouais ?
Oui. Autour de la Sainte-Honorée, un jeu concours est organisé. On gratte une petite vignette. Si un boulanger apparaît, vous gagnez tout de suite l'un des délicieux pains Banette. Sinon, une deuxième chance est offerte par un tirage au sort. Le vainqueur remporte un panier gourmand. Il est à noter que le règlement gratuit de ce jeu, sans obligation d'achat, peut être adressé directement sur simple demande.
Vraiment,
les deux jours, c'est trop court, je trouve.
Oui, bon,
on en est qu'au premier jour encore.
On en est au premier jour.
Je suis déjà fatigué.
Descendre la rue d'Anjou vers la place Charot. Pénétrer dans la grande et belle cour intérieure du garde-meuble Huette, située juste avant le restaurant Savoyard. Remarquable enseigne en fer forgé, représentant Jules-Antoine Lissajou, en cocher, dictant ses mémoires à un cheval tirant un lourd charroi de déménagement. C'est très beau. Consacrez au moins une de vos soirées à l'observation du trajet du camion des ordures. Celui-ci passe une première fois dans la partie médiane de la rue Montboron, descend la rue Saint-Simon, remonte la rue d'Anjou et effectue une deuxième fois le trajet de la partie médiane de la rue Montboron. On pense d'abord qu'il s'agit d'une erreur, mais l'observation de la répartition des sens interdits montre que c'est le parcours le plus rapide et que cette redondance, loin d'être superflue, est obligatoire. On se postera donc place Charot pour jouir de la progression complète de la benne à ordures descendant la rue Saint-Simon, virant sur la place et remontant la rue d'Anjou. Le deuxième soir, on pourra observer le double passage du camion rue Montboron du comptoir du Marlboro.
Ça doit être plus beau en hiver, j'imagine.
Oui, c'est vrai. Ne pas oublier de faire un signe au conducteur de la benne qui adore les touristes.
Demain, deuxième journée de la visite avec Emmanuel Brouillard.
Il fallait aux auditeurs de France Culture, le 3 juin 1996, patienter 24 heures pour découvrir la suite de cette palpitante aventure touristique. En ce qui nous concerne, quelques simples petites secondes suffiront.
Le tourisme minimal. Le tourisme minimal n'est pas lié par définition à l'idée d'un tourisme de proximité. On peut le pratiquer où l'on veut, à quelque distance que ce soit de son lieu d'habitation. Le voyage autour de sa chambre mis au point par Xavier de Maistre étant un modèle théorique qu'on devra bien sûr dépasser. Le tourisme minimal s'impose avant tout dans un lieu échappant à la désignation de lieu touristique et obligatoirement limité à un espace défini par un cadre précis. Place ou carrefour, gare, sortie de métro, échangeur routier, etc. Nous voulons vous faire entrevoir les possibilités immenses de cette forme de tourisme. Hier, Emmanuel Brouillard nous a proposé à Versailles un espace environnant la place Charot avec les rues d'Anjou, Saint-Simon, Montboron. Il nous a exposé un programme pour une première journée de visite, l'hôtel Printanier à réhabiliter ou pour y loger, le café Marlboro avec son monte-charge et son plat du jour, la boutique pour animaux de compagnie où vous pourrez trouver une jeune fille qui promènera votre chien 20 francs de l'heure, le cordonnier spécialiste en semelle, etc. Aujourd'hui, suite de la visite, Emmanuel Brouillard.
Deuxième journée, entièrement consacrée à la visite de la place Charot. La plus belle vue de la place s'observe en s'asseyant sur la 7e borne à partir de la bijouterie de la rue Georges Clémenceau, dos à celle-ci, et en regardant l'enseigne du Crédit Agricole située sur la gauche du bâtiment de la banque. Les deux rues montantes apparaissent alors dans une symétrie parfaite, formant l'une avec l'autre un angle de 66 degrés. Ce site constitue une véritable récompense pour les topographes. Au même endroit, et muni de jumelles de grossissement au moins 12 fois, vue imprenable sur le gap du Crédit Agricole situé à une quarantaine de mètres en ligne droite. Moyen des jumelles, on peut voir s'il est hors service. C'est le cas le plus souvent, mais on peut vérifier malgré tout. La place est en cours de réaménagement. Elle va devenir semi-piétonne. Les travaux continuent jusqu'à la fin juillet 1996. Mais qu'on sera sûr, d'autres travaux sur les canalisations sont prévus pour l'automne. Le matin, arrivé dès 7h30, afin d'observer le toujours gracieux balai des pelleteuses et de s'initier aux techniques d'asphaltage. On peut partager la gamelle de 11h avec les ouvriers, qui accueilleront vos conseils techniques avec bienveillance et vous feront grimper dans la grue ou essayer le marteau piqueur si vous le souhaitez.
Ah bah voilà, c'est toujours rêvé de ça moi. Alors,
évitez cependant d'abuser de la patience de ces travailleurs, comme des touristes suisses qui ont fini par être engagés par la municipalité 1994. On les voit encore d'ailleurs.
Ah, ils viennent là, ils se mettent sur le...
ils sont engagés.
On les a carrément...
Ils ont demandé l'asile politique.
Une ville du futur, en fait. C'est une ville parc d'attractions.
C'est une sorte de parc d'attractions, oui, on peut le voir comme ça. Pique-nique possible sous les prunus du parking du Crédit Agricole, dont les grilles situées en vis-à-vis donnent à la fois sur la rue Saint-Simon et sur la rue d'Anjou, face à la laverie située au 16 de cette rue. Avec des jumelles du trottoir de la rue Saint-Simon, on peut donc surveiller la progression des trois machines situées face à la vitrine, pratique courante chez les autochtones, comme vous pourrez le constater. Intégrez-vous à la vie du quartier en procédant de la même façon et vous acquérerez ainsi immédiatement la sympathie des habitants. À l'angle de la place Charot et de la rue Clémenceau, remarquez la pimpante façade des pompes funèbres générales, récemment repeinte par les fils de Marcel Gaudin, SARL.
Ah oui, on les a vus hier.
Les voilà. Les voilà.
C'était pour l'enterrement de leur père.
On ne sait pas.
Où est Marcel Gaudin ?
Marcel Gaudin est certainement disparu, puisque les fils d'eux a été rajouté en petit. C'est vrai. En vitrine de cet établissement, on remarquera particulièrement une carte montrant la répartition des 71 crématoriums sur le territoire français, et distinguant les crématoriums en service des crématoriums en construction.
Ça, ça peut toujours servir, oui. C'est très intéressant, ça.
Oui. On peut faire... J'ai jamais pensé à ça.
Les crématoriums en service sont noirs, sont en construction des petits pointillés autour d'une flamme. C'est très, très joli. Il y a un alléchant panonceau. Ici, vous pouvez obtenir tout renseignement sur la crémation, juste en dessous.
Oui. Et alors, la journée se termine comment ?
Par un peu de détente.
Oui.
À gauche de la banque, on visitera le laboratoire de correction auditive. Observez attentivement le dessin coloré représentant une coupe de l'oreille interne apposée sur la porte d'entrée vitrée. Vous y distinguerez le tympan, le marteau, l'enclume, l'étrier, la trompe d'Eustache, l'endolymphe et même la membrane de Reissner, représentée avec un luxe de détails évoquant les enluminures du Moyen-Âge. Après cet aperçu artistique et instructif, offrez-vous une ou deux heures de détente. Entrez dans la boutique en vous faisant passer pour un peu dur d'oreille et faites-vous expliquer les différents types d'appareillages jusqu'à épuisement du personnel. Très amusant. Bien faire répéter. À la fin de la visite, il y a l'usage...
Ça peut distraire un
moment. Ah oui, oui. Ça amuse beaucoup.
C'est une idée. Oui, oui, oui.
Moins le patron, qui déteste être dérangé et qui déteste les plaisantins.
Mais ce qu'il repère...
Il ne peut pas le savoir.
On ne peut pas repérer un faux sourd d'un vrai sourd.
Non. Hein de... Y aller avec assez d'aplomb.
Il n'y a qu'à dire qu'on n'entend rien, voilà.
Il n'y a qu'à dire qu'on n'entend pas.
Oui.
Mais, oui.
Non. Alors ensuite.
Eh bien, c'est la fin de la visite. Et oui. Il y a l'usage de payer une tournée générale d'adieu aux habitués du Marlboro.
Ah bah oui.
Sauf si le patron du laboratoire est là.
Pourquoi ?
Parce qu'il faut faire semblant de ne pas entendre.
On arrête de jouer ce rôle de dur d'oreille pour les adieux, donc.
Ah oui. Ouais. Oui. Ah oui, bien sûr.
On évite les malentendus de cet ordre.
Bien entendu, nous avons envoyé quelqu'un sur place pour nous rendre compte. Dominique Muller a été volontaire. Voici son rapport.
N'écoutant que l'écho des sirènes de Monsieur Brouillard, j'ai donc opté pour Versailles. J'ai donc pris la navette jusqu'à Station Invalide, puis la ligne C du RER, jusqu'au terminus, environné d'une troupe serrée de Japonais dont je n'ai pu m'extraire, de sorte que je me suis retrouvé dans leur autocar, climatisé avec couchette et toilette, dont je regrette que M. Brouillard ne l'ait pas mentionné parmi les curiosités intéressantes, et je suis descendue à son terminus devant le château. Là, forte des conseils de M. Brouillard, j'ai demandé à un autochtone, vêtu du costume folklorique versaillais, un uniforme bleu marine et une casquette à galons, où se trouvait la place Charot. « The château place is right there. Vous y êtes, mon pote. Ah, ces touristes, ils sont bigleux, je te jure », m'a-t-il répondu. Ce qui m'autorise, je crois, à mettre un bémol à l'aménité versaillaise vantée par M. Brouillard.
Oui, mais enfin, c'est pas tout à fait ça qu'on vous a demandé.
Bah oui, mais enfin, c'est très mal indiqué. Bah oui, mais donc, je demande mon chemin. C'est pas de ma faute s'il y a des troupes de Japonais qui vont à Versailles, si on n'arrive pas à s'en sortir. J'ai donc changé de tactique. La matinée était déjà bien avancée. J'avais mal dormi et rien mangé depuis le croissant caoutchouteux de Roissy. C'est en cherchant vainement le Marlboro, je passe sur ma quête infructueuse auprès des passants, à qui, pour affiner ma question, je précisais qu'on y trouvait un cordonnier spécialiste en semelles. Pourquoi m'ont-ils tous affirmé que des semelles, on en trouvait dans tous les bistrots de Versailles ? Mystère. Je passe aussi sur le fait qu'ayant parlé de la rue Saint-Simon proche du Marlboro, un monsieur m'a fort obligeamment indiqué un chemin me ramenant devant le château. Ça m'avait surpris aussi qu'il s'exclame « Saint-Simon, c'est au château que vous en saurez plus, autant pour moi ». C'est donc en cherchant vainement le Marlboro que je me suis restaurée au Palmal et bu au Chiquito, rebu au Balto, re-rebu à la Gitane, voulant absolument vérifier l'hospitalité des Versaillais et trouver un exemplaire de monte-charge, ce qui ne fut pas le cas.
On vous n'en verra plus en mission.
Ah non, mais vous débrouillez plus de mal. On a l'air ridicule.
Surtout
que le chemin était indiqué rue par rue de la gare.
Mais si on ne sort pas de la gare,
on ne s'y retrouve plus.
Et voilà, pourquoi ne pas sortir de la gare ?
En revanche, en proie à une sensation de vertige que je n'avais jamais éprouvée jusqu'alors, est-ce l'air de Versailles ? Il m'a fallu à maintes reprises éviter de chuter dans les trous creusés par les marteaux-piqueurs, fort nombreux et fort bruyants en effet.
Enfin.
De sorte qu'en plus du Marlboro, de la place Charot, j'ai également cherché le laboratoire de prothèses auditives car j'étais devenue sourde comme un pot, pour de vrai. L'après-midi était déjà largement entamé quand, miracle, je suis tombée sur la boutique Miniso avec, toujours là, l'affiche apposée par Catherine. Je me suis dit, une promeneuse, cette fille doit connaître la ville. Et je l'ai appelée, non pour promener mon chien, mais pour me promener moi. C'est ainsi que pour la somme modique de 20 francs, je visitais toutes les alléchantes attractions promises par M. Brouillard et me suis fait prescrire une prothèse auditive sans avoir besoin de faire semblant.
Je n'ai pas.
Ces deux épisodes des Décraqués de Bertrand Jérôme avec Emmanuel Brouillard et Dominique Muller ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 3 et 4 juin 1996.